Bonjour et bienvenue sur Radio Capucin 94.5 FM.
Aujourd'hui, vous êtes en compagnie de
Barani
et moi-même Marie. Donc, on va vous parler de notre sortie aux archives départementales de Seine-et-Marne. Donc, elles sont situées à Damary-les-Lys, derrière la carte. Et on vous a fait un petit récapitulatif des choses que la dame avec qui on a travaillé nous a fait part,
plein d'informations,
voilà,
qu'elle nous a partagées. Notre sortie, elle parlait de la Seconde Guerre mondiale, donc...
Ils nous ont sorti plein de dossiers de la Seconde Guerre mondiale, donc c'était assez sympa.
Ouais, plein d'archives, il y avait des lettres.
Et en fait, le but de cette sortie aux archives, c'est qu'on doit faire un travail en histoire géo, et ce sera sur la télé Capucin. Voilà. Donc on vous laisse avec l'émission, et on vous dit à la prochaine.
Au revoir, restez branchés sur Radio Capucin 94.5 FM.
Alors, qu'est-ce que c'est pour vous un document? Pour vous, hein.
Je n'attends pas la réponse du Larousse. Voilà.
Pour vous, c'est quoi?
Ça vous évoque quoi dans votre tête? Quand on vous dit document, vous pensez à quoi?
C'est quelque chose avec la limite.
Oui, qui va vous aider à travailler, oui, un support. Alors, en termes de support, ici, nous, les documents, c'est tous les supports. Ça peut être des plaques de verre, puisqu'il y a 260 ans, on utilisait les plaques de verre pour mettre certains... On va en parler, des documents, on faisait des documents avec des plaques de verre. Ça peut être du bois, ça peut être du plastique, ça peut même être des composants électroniques. Donc, nous, les supports, c'est le papier, c'est le parchemin, c'est plein de choses. Quoi d'autre? Quand on dit document, on pense à quoi? C'est tout? Juste un support qui vous aide à travailler? Rien d'autre? Alors, une chose que vous allez apprendre, en tout cas, c'est que les archives, tout le monde en a. Vous en avez chez vous. Vous en avez même dans tous vos sacs, là. Parce que pour nous, les archives, c'est tous les supports qui contiennent une information qui est produite ou qui est reçue, c'est-à-dire un courrier, par exemple, par quelqu'un dans son activité. Donc, vous, actuellement, là, votre activité principale, c'est être élève. Et dans votre activité d'élève, eh bien, vous avez utilisé plusieurs supports dans lesquels vous allez mettre des informations de toutes sortes. Ça peut être du texte, ça peut être de l'image, ça peut être du son, ça peut être des cartes, des plans, plein de choses. Et dans votre activité d'élève, et des choses que vous allez recevoir, des bulletins de notes, des carnets de correspondance, tout ça, ça fait partie de vos archives. Donc des archives, tout le monde en produit. Si on est boulanger, quand on vend du pain, on a de la comptabilité, on note ce qu'on vend, on note ce qu'on achète, on a aussi des factures, on a un certain nombre de choses, donc on a produit aussi des archives, d'accord? Quelque activité, ok? Alors ici, les archives qu'on va garder, ce sont les archives, comme les archives départementales de Seine-et-Marne. À votre avis, quel type de document d'archives on va garder? Oui.
Document historique.
Alors, qu'est-ce que tu appelles document historique pour toi?
Des registres de guerre,
par exemple, tout à fait. Un des exemples de documents, on a. Donc, ça peut vraiment être toute forme, ça peut être des courriers, ça peut être des lettres, ça peut être des photos, on a dit, déjà des registres, par exemple. Et toi, tu as dit historique. Alors, en quoi on va garder des archives historiques? Des choses historiques, parce qu'en effet, c'est le cas, c'est un terme qu'on utilise. Qu'est-ce que c'est historique pour vous?
C'est quelque chose d'ancien?
Quelque chose d'ancien, oui. Quel rapport avec l'histoire? En quoi c'est utile pour l'histoire?
Qui a marqué la France?
Qui a marqué la France, oui, ça peut. Alors pas toujours, hein. Il peut y avoir des choses qui ne sont pas forcément des choses très marquantes, mais qui peuvent être utiles comme ça. Alors les archives qu'on va avoir ici, tous les documents qu'on a, ils ont un lien avec le territoire. D'accord, on est implanté en Seine-et-Marne, on va récupérer les archives qui viennent de la Seine-et-Marne, principalement de toutes les institutions publiques qui sont installées en Seine-et-Marne. Un exemple, l'armée, les mairies. Un autre exemple de lieu public qui pourrait nous donner ces archives.
La poste.
Alors la poste, c'est un cas particulier, parce qu'on est là dans le cadre d'une entreprise, mais ça pourrait. On a
des archives de facteurs.
Les églises, les
oui, alors à ceci près que tout ce qui est église, religieux, etc., il y a une partie, alors il y a les bâtiments qui sont gérés par les communes,
Donc là, il va y avoir des archives publiques, mais en soi, les archives d'une église sont des archives privées, qui ne sont pas à tous les citoyens, d'accord ? Ok. Autre exemple, à Melun.
Musée.
Musée, par exemple, oui. Autre chose de la vie publique à Melun. Je sais pas, là où vous êtes, par exemple. Dans votre collège, des archives de collège, de lycée, d'école. On a aussi les tribunaux, on a aussi les prisons. Donc, vous voyez, vraiment, on peut recevoir des archives de toutes les institutions. Ok ? Donc, tous les supports, toutes les institutions. Et on peut aussi récupérer aussi des archives privées. Parce que les archives que vous avez chez vous, vous n'êtes pas obligé de les donner, contrairement aux lieux publics. Mais vous pouvez les vendre, vous pouvez les donner. Et nous, on peut aussi les accepter et du coup les garder parce que ça peut avoir plusieurs intérêts. Alors, tous ces documents qu'on va garder, qu'on va récupérer, qu'on va collecter, pour vous, pourquoi on les garde ? Pourquoi ici ? Parce que nos missions, je l'ai mis là-bas, c'est collecter, classer, conserver. Pourquoi on va conserver tous ces documents qu'on a récupérés un peu partout sur le territoire du département ? Pourquoi ? Parce que ça coûte de l'argent, ça demande du temps. Oui ?
Bah, des témoignages, des choses importantes, comme la guerre, par exemple.
D'accord, des témoignages de la guerre, des témoignages de l'histoire, en fait, du passé, d'accord ? Oui ? Oui. Pourquoi c'est important d'en voir des vrais pour vous ?
À cause de l'idée à trois personnes.
Oui, d'accord. Et aussi voir comment les choses sont arrivées, hein, les documents authentiques, d'accord. Pouvoir faire votre propre idée aussi de ce qui s'est passé, d'accord. Et puis il y a une autre raison pour laquelle on garde les documents d'archives, c'est pas que pour écrire son histoire, même si c'est très important pour ça, hein, avoir des sources pour l'histoire. C'est aussi pouvoir défendre son droit. Donc sachez-le, quand vous serez majeur, vous pouvez venir ici gratuitement. C'est un droit. En tant que citoyen, vous avez, si vous un jour vous avez besoin, par exemple, je ne sais pas, d'une copie d'un jugement qui est lié à votre famille, ou un certificat de scolarité, ou un acte de propriété, des doubles, voilà, qu'on peut retrouver dans les archives administratives publiques. Eh bien, vous pouvez venir chez nous pour en avoir une copie et pour pouvoir vous en servir, pour pouvoir prouver votre droit. Je prends un exemple. Quelqu'un qui voudrait monter un dossier de naturalisation, par exemple quelqu'un qui est étranger et qui veut se faire naturaliser français, acquérir la nationalité française, il fait un dossier. Dans ce dossier, il doit prouver que, par exemple, il a passé son enfance en Seine-et-Marne. Pas de bol, ses parents, ils n'ont plus de papier, ils ont eu un incendie, voilà, leur maison a brûlé, et puis il n'a plus rien, plus de papier pour prouver qu'il a bien vécu en Seine-et-Marne et qu'il a bien été scolarisé en Seine-et-Marne. Et bien du coup, il peut venir ici voir s'il y a les documents qui peuvent lui permettre de prouver qu'il a été scolarisé en Seine-et-Marne quand il était enfant. D'accord ? Donc voilà un exemple. Intéresse ici, et surtout voilà, pour vous faire comprendre voilà, d'où vient l'histoire, comment elle s'est écrite, comment on sait ce qui s'est passé, d'accord. Est-ce que vous pourriez m'expliquer, là, admettons que on n'ait rien sur la Deuxième Guerre mondiale, on veut écrire un livre d'histoire sur la Deuxième Guerre mondiale, où est-ce qu'on peut se procurer des informations? Donc on a déjà dit les archives. Quelles sont les sources? Alors, vous savez, comme les journalistes, parfois on entend parler des sources. D'où vient l'information? Donc on a dit les archives, ça, on va le voir ensemble. Quelles peuvent être les autres sources? Oui.
Internet.
Alors, Internet, c'est un support.
Internet, c'est voilà, un moyen de communication. Les informations qui sont sur Internet, elles viennent d'où? Mais c'est très bien d'en parler d'Internet. Oui.
Des ancêtres des survivants.
Des survivants.
Par exemple, un soldat qui a vécu dans les tranchées, il dit ça à son fils, et son fils, quand il va faire son enfant, et ben, cet enfant-là, il va le dire à son autre fils.
D'accord.
Et lui, va aller témoigner à l'archive.
D'accord. Donc là, c'est ce qu'on va appeler des témoins, des témoignages, ce sont les acteurs, les gens qui ont vécu le moment. D'accord? Bon, il y a une limite à ça. Quelles sont les limites de cette source-là? Elles ont toutes des limites, hein, les archives aussi. C'est quoi la limite d'un témoin, d'un acteur qui a vécu? Il peut mentir. Il peut exagérer. Parfois, il peut oublier des choses, hein. C'est pas forcément délibéré. Et puis aussi, autre chose, il n'est pas éternel. D'accord? Autre source, une autre source, alors qui fait beaucoup plus rêver, mais dont on oublie un peu parfois. Voilà, c'est la dernière. Alors les livres, oui, mais les livres en fait résultent de tout ça. Grâce à tout ça, on va pouvoir écrire un livre. Faire une synthèse de tout ça. D'accord? C'est comme ça que votre livre d'histoire il peut s'écrire. Donc oui, bien sûr, les livres anciens sont utiles. Hein, on sert, c'est ce qu'on appelle nous la documentation. Mais c'est pas. Enfin, ça peut servir de source, mais c'est. Non, la dernière chose, c'est aussi les objets et les bâtiments qu'on nous a laissés. Alors, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, bah, peut-être vous allez faire, je sais pas, les plages du débarquement. Quand vous allez voir les plages du débarquement, vous avez encore des bunkers. Si vous allez dans les différents endroits où il y a eu les camps de concentration, il y a encore des camps qui n'ont pas été détruits, hein, qui existent encore. Donc, c'est tout ça, tous ces vestiges, tous les objets qui restent de cette période-là et qui relèvent là de ce qu'on appelle l'archéologie. L'archéologie, c'est l'étude des choses anciennes, des objets anciens. En fait, ce sont en fait les objets. Les objets, les bâtiments, les objets. D'accord? Donc les témoignages, les bâtiments, les objets, et puis les archives. Donc les archives, c'est quand même une source très importante pour écrire l'histoire. Voilà, alors simplement, nous ici, donc les archives, on les collecte. Alors, la loi nous autorise à demander aux mairies, aux tribunaux de nous donner leurs documents. On les récupère, on va les classer, bon, puisque si on ne les classe pas, on ne va pas réussir à s'y retrouver. Moi, pour pouvoir sortir vos documents, il a fallu que je cherche dans des listes qu'on appelle des inventaires, parce que je pouvais vous sortir, parce que je ne sais pas par cœur tout ce qu'on a ici. Il faut savoir que ici, derrière le bâtiment, vous avez une tour de 10 étages. Parce qu'on est aussi un lieu de stockage, d'accord? Tous les documents qu'on a, on les stocke. On a à peu près, si on met tous les documents que j'ai, là, bout à bout, on peut faire 38 km. Actuellement, on peut parcourir 38 km. Vous imaginez bien que moi, pour retrouver les quelques boîtes que j'allais vous sortir cet après-midi, j'ai pas fait 38 km pour aller regarder, et puis j'ai pas ouvert toutes les boîtes. Donc, j'ai regardé dans les inventaires qu'on fait au moment où on classe les documents. Et quand on les classe, il y a des choses qu'on va jeter, des choses qu'on va garder. Et quand on classe, on va donner des cotes et on va noter qu'est-ce qu'on a de façon un peu générale. Comme ça, ça nous permet de nous y retrouver et de retrouver des informations dont on aurait besoin. Oui.
Et quand vous jetez, vous en jetez certains?
Oui, il y a des documents qu'on peut détruire, qu'on peut jeter. Quand on les jette, on les détruit pour éviter qu'ils soient vus par n'importe qui. Parce que tous les documents qu'on vous montre, de façon générale, tous les documents qu'on a ici sont... On peut être consulté par n'importe qui. C'est notre quatrième mission, c'est communiquer, parce qu'il ne suffit pas de garder pour garder. L'intérêt, c'est que ça serve. Tous les documents que vous avez ici peuvent être lus par n'importe qui, tout de suite, mais il y a des exceptions. Alors, les exceptions, elles sont faites pour protéger la vie privée des gens, toujours vivants, bien sûr, et aussi la sécurité du territoire. Alors, je donne un exemple. Une prison, comme par exemple la prison de Melun, tant qu'elle est en activité, tous les documents d'archives qui concernent la prison, en tout cas le bâtiment de la prison, on ne les communiquera pas. Les gens, n'importe qui, même moi, je ne vais pas aller les lire. D'accord? On va attendre 50 ans avant de pouvoir les consulter. D'accord? Donc là, c'est des cas particuliers. Il y a des délais qu'on attend comme ça avant de pouvoir montrer les documents. Et forcément, si on décide de ne pas garder des documents, c'est des documents quand même sur lesquels il peut y avoir des informations sur des personnes encore vivantes, avec des informations qui peuvent être parfois des informations
sensibles, qui parlent par exemple des maladies ou qui parlent par exemple de la situation familiale, d'un jugement de quelqu'un, et ben, il s'agit de faire en sorte que personne ne puisse les lire si on décide de les détruire. D'accord ? Donc on va les brûler, on va les broyer. Voilà. Alors évidemment, quand on détruit quelque chose, je vous rassure, on ne le fait pas de façon arbitraire, on n'est pas des grands des décideurs qui dictons nos lois. Hein, c'est la loi qui nous dit ce qu'on a le droit de détruire. Et quand on décide de détruire quelque chose, on fait la liste de ce qu'on détruit, et la liste, on va la faire valider par notre directeur, et ensuite par le ministère de la Culture, puisque le ministère de la Culture contrôle ce que nous faisons. D'accord ? On a une tutelle. Voilà. Donc on ne fait pas ce qu'on veut comme ça dans notre coin, parce qu'on engage aussi le futur, puisque tous les documents que vous avez là, que vous avez, qui vont être gardés dans la tour, il faut qu'ils puissent servir dans 100 ans, 50 ans, enfin voilà. Et donc on est obligé, quand on décide est-ce qu'on détruit pas, de savoir est-ce que ça va être utile dans 20 ans, est-ce que ça va être utile dans 50 ans, est-ce que ça va être utile longtemps, voilà. Et de savoir est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas, si on le garde pas, quelles sont les informations qui vont manquer, est-ce qu'on peut les retrouver ailleurs, voilà. On se pose toutes ces questions-là, donc c'est un travail qui est très intéressant, mais qui est pas toujours facile. D'informations et puis mal classées, on ne se retrouve pas, on n'a jamais l'idée d'aller les voir. Les conserver pour les garder en bon état, c'est pour ça que vous avez des belles boîtes et que je vais vous donner des petites consignes quand vous allez avoir les documents sur les tables. Et puis on les communique pour que ça serve, pour qu'on puisse écrire l'histoire, pour qu'on puisse s'en servir pour défendre son droit. Voilà. La mission des archives. Et donc les archives de Seine-et-Marne, ce ne sont pas les seules. Vous allez dans tous les départements français, vous avez des services d'archives. Hein, même à l'outre-mer, vous allez à Mayotte, le département de Mayotte, c'est les archives départementales de Mayotte. Même en Guyane, vous avez un service des archives de la Guyane. D'accord ? Tout ça pour centraliser les documents et que les citoyens sachent où aller. Et puis après, il y a aussi les archives nationales, les archives de communes, voilà, vous avez différents services.
Depuis que l'informatique existe, est-ce que chaque document que vous réclamez ou qu'on vous donne, il est systématiquement numérisé ou c'est un pareil que vous faites après ?
Alors la numérisation, ça fait à peu près 15-20 ans qu'on fait de la numérisation.
Ah oui.
Voilà. On numérise pas tout et on pourra jamais tout numériser. Parce qu'en fait, depuis qu'on numérise, on a numérisé à peu près l'équivalent de 43 millions d'images. Et c'est moins de 1% de ce qu'on peut garder ici. Voilà. Mais pour autant, alors ce qu'on numérise en général, c'est là où on fait des campagnes de numérisation, c'est des documents très demandés. Comme par exemple l'état civil, tous les actes de naissance, de mariage, de décès, parce que les gens font leur généalogie et ils veulent beaucoup consulter ces documents-là. Pour vous donner un ordre d'idée, on a à peu près 30 000 connexions par mois à l'état civil. Voilà.
Après, il y a un problème de conservation, j'imagine. Ils vont numériser des choses qui
voilà. Dans le temps. Après, voilà, on va numériser les choses fragiles. Par exemple, on a numérisé la presse du 19e siècle. Parce qu'au XIXe siècle, l'encre utilisée dans la presse, à certaines périodes, elle est tellement corrosive qu'elle attaque le papier et ça s'auto-détruit en fait. Donc même si on fait tout ce qu'il faut pour les garder en bon état, comme elles vont se détruire, on a dû les prendre en photo pour pouvoir garder l'information. Donc voilà, il y a ces deux raisons-là. Pouvoir faire une copie de sauvegarde et en même temps éviter que le document il soit trop manipulé. Voilà. Du coup, voilà. Puis après, il y a la diffusion, c'est...
c'est aussi l'intérêt, c'est numériser des choses qui peuvent être diffusées et utiles pour... voilà. Mais on ne trouvera pas tout sur Internet. Non, il y a quand même encore besoin de venir chez nous. Et notamment, les documents d'archives que vous allez avoir sur vos tables, donc, sont des documents qui sont liés à la Deuxième Guerre mondiale. Donc la plupart viennent des archives du préfet. Alors le préfet, c'est le représentant du chef d'État, du président de la République, dans les départements. D'accord ? Ça existe depuis Napoléon, hein, depuis la fin du 19e siècle, du 18e siècle. Et donc les préfets, ce sont des personnages clés et on a donc leur correspondance notamment. Et dans cette correspondance, qui date de la Deuxième Guerre mondiale, bah, vous allez trouver des informations sur bah, qu'est-ce qui se passe dans le département.
Aujourd'hui, vous êtes en compagnie de
Barani
et moi-même Marie. Donc, on vous a montré l'interview qu'on avait fait des petites choses
lors de la sortie aux archives départementales.
Et bah, on espère que ça vous aura plu. Et au revoir.
Restez branchés sur Radio Capucin 94.5 FM.